Hola, ¿cómo está? Il y a quatre parashiot qu'on a lues donc avant Pessah, et la quatrième, on l'a lue avant Rosh Chodesh Nissan, et cette parasha-là, cette quatrième-là, elle s'appelle Parashat HaChodesh. Et Rashi dit, sur cette parasha-là, Rashi c'est sur la Mishnah, parce que dans la Mishnah, dans Megillah, on nous parle de ces quatre parashiot. Là-dessus, Rashi dit, la quatrième, c'est Parashat HaChodesh, de la M. Pourquoi est-ce qu'on la lit? Chez Sham, Parashat HaPesach.
Ça contient la Parashat de Pesach.
Un instant. Pardon? Bien. Alors, on a cette paracha de, on prie cette paracha, une paracha à Chodesh, parce qu'elle contient une paracha à Pessah. Et ça, c'est extrêmement difficile à comprendre, parce que c'est marqué dans la Torah, d'abord, Moshe, mon avé Hachem, el béné Israël, et toujours dans la, cette Megillah qui parle de ces choses-là, il est dit, mitzvatan sheyu korin kol echad v'echad bizmano. Moshe qui ken lahem l'Israël, sheyu shoalim v'toshim v'inyano shayom, ilchot pesach v'pesach, ilchot atzeret v'atzeret, ilchot achad, c'est-à-dire, tukot v'achad. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses ici. Quand on est dans les jours de Pessah, on est dans la fête de Pessah, il y a une lecture de la Torah. Comme il y a une lecture de la Torah chaque Shabbat, il y a une lecture de la Torah à chaque fête. Et à Pessah, on lit une paracha, un morceau de la Torah, qui parle de la fête de Pessah. Évidemment que, à Pessah même, on ne va pas lire la paracha pour savoir ce qu'il faut faire pour Pessah. Si on lit une paracha qui dit qu'il faut éliminer le Hametz, etc., quand vous lisez ça le deuxième jour de Pessah, c'est un peu tard. Donc évidemment, la lecture n'est pas une lecture pour savoir quoi faire. Elle a une autre fonction. Il y a une fonction qui est en réalité, si vous voulez, l'application d'une règle plus générale, qui est que, en fait, nous partons toujours de la Torah, du texte de la Torah. Maintenant, chaque mitzvah, je parle de mitzvah, chaque mitzvah a un ou plusieurs psukim qui parlent d'elle, qui nous disent, qui parlent de cette mitzvah. En général, dans le texte de la Torah, dans le texte lui-même, il n'y a pas les détails. Ça veut dire que si dans la Torah on nous dit tu dois habiter, on ne te dit pas comment fabriquer le souka, qu'est-ce que c'est, quel staff on doit mettre, combien il faut de parois, etc. Tout ça, c'est pas marqué dans le texte de la Torah. Tout ça, ça va venir dans la Torah chez Baal Peh, Torah orale. Mais il y a un texte de la Torah qui parle de la mitzvah de résider dans la soukha pendant Sukkot, qui parle de manger de la matzah à Pessah, mais on te dit que tu veux manger de la matzah, mais on ne te dit pas du tout comment on fait la matzah. On sait bien que la matzah, c'est une, on est censé savoir, si vous voulez, mais c'est pas marqué du tout dans la Torah. Mais, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'on veut que la mitzvah elle-même soit le prolongement du texte qui parle de cette mitzvah dans la Torah. C'est comme si on allait actualiser, comme si on allait réaliser le texte qui est inscrit dans la Torah, on va le réaliser concrètement dans notre monde. Dans notre monde, on va on va prendre un, c'est marqué, on va prendre prier Sada.
Bon, ça, c'est le etrog.
Ok. Personne. Et Sadar. Alors, il y a plusieurs explications du mot Hadar, la beauté, ou bien c'est un fruit qui reste longtemps sur l'arbre, etc., plus qu'une saison et tout. Tout ça, ce sont des choses qui viennent, qui sont discutées ensuite dans la Torah orale, dans la Torah Shebalpé. Mais la thèse, il te dit, tu prendras quatre espèces, puis une des espèces, c'est Priyet Sadar. On veut réaliser concrètement les gestes qui expriment dans le monde du geste, si vous voulez, dans le monde du concret, ce que dit le pasouk. C'est ça le travail qu'on fait en lisant à Sukkot un texte qui parle de Sukkot et à Pessah un texte qui parle de Pessah. C'est Moshe Tiken Laem l'Israël. C'est une takana de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui a voulu, il voulait que ce que nous pratiquons comme mitzvot, elle soit, on les comprenne bien comme étant dérivant du texte de la Torah. Prenons leur source dans le texte de la Torah. Alors, on a un problème. Dire que la raison pour laquelle on lit par Shatar Chodesh, parce que dedans il y a la parasha de Pessah, ça fait pas sens. Quand est-ce qu'on lit par Shatar Chodesh? On le lit avant Rosh Chodesh. Donc il y a au moins une quinzaine de jours avant Pessah. On est en train de lire 15 jours avant la fête de Pessah, les psukim de Pessah. C'est pas du tout ce que Moshe Rabbeinu. Ça marche pas. On ne veut pas dire que ça s'appelle Bismano. 15 jours avant, ce n'est pas Bismano. Pas en son temps. Pessah lui-même, on va lire, comme je vous ai dit, on va lire des parchiotes. Chaque jour de Pessah, c'est un autre paracha. On va lire des parchiotes qui parlent de la fête de Pessah. C'est bon. Alors, c'est quoi cette idée de lire Parchat Arkodesh? Parce qu'elle contient la paracha de Pessah. Qu'on lise Parchat Arkodesh avant Pourim, parce que la parasha Zahor elle parle d'Amalek, et que la capule centrale de Pourim, c'est Aman qui est Amalek. On comprend. On lise la parasha d'Ashkalim, parce que ça correspond au moment où on collecte, on récolte, on demande aux gens d'apporter leur martifa shekel, leur demi-shekel. Alors on lit cette parasha à ce moment-là, ça va très bien. Mais dire qu'on va lire la parasha d'Arkodesh avant Rosh Chodesh, c'est-à-dire plus que 15 jours avant la fête de Pessah, parce qu'elle contient la fête de Pessah, c'est incompréhensible. Voilà. Bon, ça c'est une première question. Alors, à la fin de la paracha de Bo, le pasouk dit, « Vaïdaber Hashem el Moshe de mort. Kadesh li kol bechor peter kol rechem imme Israël v'adam ou v'abehema li yukou. C'est une des parchiotes qui se trouve dans les tfilim. Bon, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, Hachem dit, sanctifie-moi tout premier-né, chaque fois que cette créature a ouvert les voies basses lors de sa naissance, c'est-à-dire on est exclu ici une césarienne, que ce soit chez les humains, que ce soit dans le monde animal, c'est ça qu'on appelle un bechor, et il est sanctifié, il m'appartient bien sûr. Ensuite, le texte dit, « Vayomer Moshe el Ha'am », le peuple, Moshe dit au peuple, Zachor v'etayom hazeh, souviens-toi de ce jour-là, Asher yitzatem mimitzrayim, c'est le jour où vous êtes sortis d'Égypte, du Beit Avadim, cette maison d'esclavage, qui me causait yad, si Hachem est très misé, parce que Hachem vous a sorti là-bas avec une main forte, ולא, et alors il y a l'interdit de manger du chametz. Pourquoi? Ayom atem yotzim bechodesh ha'aviv.
Ce jour-là, vous sortez dans le mois du printemps.
Le Ramban dit que le sens de ce paracha Kadesh Likol Bechor, sanctifie-moi tout premier-né, Ramban dit, on a l'impression ici, très clairement, qu'il s'agit de le sanctifier immédiatement. C'est-à-dire, c'était une mitzvah qui a été pratiquée dans le désert. En Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, immédiatement, quand ils ont eu un enfant, ou si dans leur troupeau, il y a eu un premier-né, une brebis qui a mis, pour la première fois, un agneau, il y avait cette mitzvah-là. Et le Ramban dit, cette paracha de Kadesh Likol Bechor, il dit mitzvot rabot. Et cette paracha-là, elle nous a ajouté de nombreuses mitzvot. C'est-à-dire, Fizkru Ayom, il faut se souvenir du jour de la sortie d'Égypte, Ve'achodesh, et du mois, Shaya Aviv, qui était un mois de printemps, Vishmeru et Achouka Azot, le mois d'Ado, et il pourra veiller à garder cette loi de Pessah, pour la fêter en son temps, régulièrement, etc. Alors, vous vous souvenez, on a déjà parlé de ce fameux Rambam qui parle de la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte et qui, au lieu de nous dire qu'il y a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, il disait que mitzvah passé chez le Torah, le saper benissim veniflaot. Il faut raconter les miracles, les choses extraordinaires. Shemassou la voté de Mitzrayim belel chamisha asar benissan. Donc, eu lieu pour nos ancêtres la nuit du 15 Nissan. Et pourquoi, dit Rambam? Parce que c'est marqué, Zachor et ayom hazé hachaïd satem Mitzrayim. Donc, le Rambam cite ce pasouk que je viens de vous ramener sur la parasha de Kadeshli, Kol Bechor. Et le Rambam ajoute, si tu ne sais pas exactement ce que veut dire Zahor, souviens-toi d'eux, ce jour, etc., comment, ça veut dire se souvenir d'un jour? Ça veut dire quoi? Ce jour-là, on va se promener avec quelque chose, une fleur à la boutonnière, ou est-ce qu'on va faire un repas particulier? Donc, de quelle manière est-ce qu'on est censé se souvenir de ce jour-là? Alors, le Rambam dit, voilà, il y a quelque chose que tu connais, c'est Zahor et Yom HaShabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat. Ça, semble-t-il, les Israël savaient comment on se souvient du jour du Shabbat. Alors, vous savez bien comment on s'en souvient. C'est la partie positive du Shabbat, Zahor, par opposition à Shamor, qui est donc l'ensemble des interdits, qui parle des interdits. Le Zahor, c'est à la fois honnête et kavot, c'est-à-dire la jouissance et donner du poids à cette journée. Le honneg et le kavod, c'est allumer des lumières, faire de beaux repas, mettre de beaux amis, etc. C'est la fête, quoi. Alors, de la même manière, inspiré par Zahor et Yom HaShabbat, tu vas savoir comment te souvenir du jour de la sortie d'Égypte. Les commentaires, ils ramènent ça au nom du Smad, un Rishon, il dit que de la même manière que, parce que le Rambam vient de dire là en un mot, lui il l'explicite, il l'a écrit avant, donc il a dit de la même manière que le Créateur a ordonné de se souvenir du jour du Shabbat, de s'en souvenir quand? Le jour même du Shabbat. Non, c'est pas Zahor et Yom HaShabbat, c'est-à-dire souviens-toi du jour du Shabbat, on pourrait penser qu'il faut s'en souvenir toute la semaine. Ce qui n'est d'ailleurs pas complètement faux. Après, une de Volozhin, il disait que dans le souviens-toi du jour du Shabbat, il y a cette idée que chaque chose que je fais dans la semaine, je me dis, si c'était Shabbat,
je ne pourrais pas la faire, ce chose-là. C'est une malacha. Éventuellement, si j'en sais un peu mieux, c'est telle et telle malacha, et on pourrait dérouler dans sa tête une partie des halakhot de Shabbat concernant cette malacha-là. C'est une façon de se souvenir, de donner du poids au Shabbat, de toute la semaine. Mais là, il y a un din beyom Shabbat, car il s'agit de l'iskor et de l'iktiat Mitzrayim, beyom l'iktiat Mitzrayim, c'est ayom hazeh. C'est ça le verset, ayom hazeh, c'est cette chose qu'on montre du doigt, ce jour-là, ce jour précis, encore, le 15 Nissan, il faut s'en souvenir le 15 Nissan, de ce qui s'est passé le 15 Nissan, il y a longtemps, pour Noah Avot en Mitzrayim. Le jour de la sortie d'Égypte. Certains vont dire que, certains proposent de considérer que c'est ça l'essentiel de toute la, de tout le céder de ça, c'est souviens-toi, et comment tu t'en souviens? Tu t'en souviens en te considérant comme si tu étais toi sorti d'Égypte. D'accord? Mais dans la situation de quelqu'un qui est en train de sortir de l'Égypte. Bon, c'est une possibilité. Certains disent que c'est l'essentiel. C'est sûr que c'est une mitzvah. Ayam Adam, Lirot et Asmo, Kilou Yassam et Mitzrayim. Bon, vous savez bien, il y a une mitzvah de se considérer ce soir-là comme si on était sorti d'Égypte. Reste encore à savoir, expliquer ce que ça veut dire, se considérer comme. Alors, il y a une lecture qui est. Nous, on a, les Ashkenazim, ils ont cette lecture-là. Dans la Haggadah Sfarad, c'est marqué, Hayav Adam Leharot et Atzmo, Elou ou Yatsam et Mitzrayim. C'est-à-dire, chacun doit se considérer, mais le montrer qu'il se considère. Leharot et Atzmo, se donner à voir comme s'il était sorti d'Égypte. De là, il y a cette idée de ce que généralement, on fait faire ça par les enfants, mais on pourrait faire ça par les adultes. Donc, on tourne autour de la table avec un baluchon, etc. Et on chante, ainsi nous sommes sortis de Mitzrayim, etc. Donc là, c'est un très très beau minage, c'est-à-dire qui manque pour les enfants, c'est encore très impressionnant, et ça marque, et c'est nécessaire. C'est le début de l'exercice. Hein. La Haggadah, elle est à raconter les enfants, mais pas obligatoirement les petits, mais aussi les petits. Donc, voilà, c'est comme ça que tu dois essayer de vivre cette mitzvah, de se souvenir de ce jour-là de la sortie d'Égypte. Ce que le Ramban dit, quand il dit que dans cette parasha, un parasha de Kadesh Nikol Bechor, sanctifie-moi tout premier-né, il y a dans cette paracha beaucoup de mitzvot, et en particulier, on doit se souvenir non seulement du jour, mais aussi du mois. Et du mois, pas simplement, si on se rappelle de jour, on pourrait dire, bon, ben alors maintenant il faut étendre ça, il faut penser à tout le mois en question. Mais l'accent, il n'est pas tellement sur le mois seulement, mais le fait que le mois était un mois de printemps. Le mois du printemps, c'est Nissan. Donc, il y a une mitzvah de s'en souvenir. Bon, c'est pas marqué dans le Shulchan Aruch. Mais, a priori, il y a quand même une mitzvah de s'en souvenir. Mais la question, là, du coup, c'est de savoir, quoi se souvenir de ce que c'était Chodesh Aviv dans ce printemps. Concrètement, on sait très bien qu'on a une obligation de faire en sorte que Pessah tombe dans le mois du printemps. C'est-à-dire, le mois de Nissan, c'est le mois du printemps, mais avec notre calendrier lunaire, si on ne fait pas attention, le mois de Nissan, il va se promener dans toutes les saisons. Parce que les saisons, elles sont liées calendrier solaire, si vous voulez. Si on a calendrier lunaire, on prend 11 jours de retard chaque année. Au bout d'un certain temps, on aura Pessah à Hanouka. Enfin, Pessah sous la neige. Alors, comme si on était dans l'hémisphère sud. c'est possible quand même. Mais bon, la Torah, elle n'a pas été a priori donnée spécifiquement pour l'hémisphère sud. Mais bon, il faut la vivre quand même. Bon, alors, il faudra savoir ce que ça veut bien vouloir dire, que le Chodesh, c'est Chodesh Aviv. Donc, je crois qu'on avait déjà parlé, non, si je me trompe, on a parlé des mitzvot, de Mitzrayim, du récit, et aussi que, effectivement, vous vous souvenez, on a vu le Rambam que je viens, qui disait, alors qu'il est censé nous parler de la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, il dit qu'on doit raconter les Nissim et les Niflaot qui ont eu lieu dans la nuit du 15. Alors, bien entendu, il faut qu'on aille regarder de plus près, et ça, je crois qu'on l'a déjà un peu fait, ce que le Rambam veut dire quand il parle de Nissim et Niflaot. Est-ce que c'est Nissim et Niflaot? D'accord? C'est a priori pas la sortie d'Égypte elle-même. Même si on dit que cette sortie était miraculeuse, je ne sais pas s'ils l'ont tellement ressenti. Ils l'ont ressenti, je suppose, les Makot, ils ont mieux ressenti que c'était miraculeux. Dans les Makot, il y a toujours, comme vous le savez, il y a toujours deux aspects. Il y a l'Égypte qui est frappée, et en même temps, il y a Israël qui est préservé, Israël qui n'est pas frappé. Bon, c'était très important parce que il s'agissait de montrer la différence, la singularité d'Israël. Et on a vu que cette singularité d'Israël culmine au moment de Makat Bechorot. C'est une façon de dire que Goy Echad Baaretz, que le clan d'Israël, c'est un peuple unique dans le monde, ce qui est tout à fait normal, si vous parlez comme ça, dans la mesure, et c'est une autre façon de s'exprimer, quand on dit que le clan d'Israël, c'est le peuple d'Hachem. Si Hachem est un, s'il est totalement singulier, alors son peuple doit être totalement singulier. Sinon, il ne peut pas du tout être appelé le peuple d'Hachem. Et ça, je pense qu'on l'a déjà vu. C'est juste ou bien je me trompe? On en a déjà parlé?
Oui.
Oui, bon, d'accord. Et alors, on n'y revient pas. Alors, on a aussi parlé longuement, juste pour mémoire, de tous les efforts qu'on fait pour en réalité arriver à ce que si on a un enfant chez Noyodé Alishol, c'est-à-dire un enfant qui n'est pas arrivé au stade où il sait poser des questions, il faut arriver à l'inciter à poser des questions. Et pour ce faire, on va faire toutes sortes de choses anormal, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne fait pas d'ordinaire, pour que l'enfant soit amené à poser des questions. On veut qu'il pose des questions, qu'il pose au moins la question du timbre. On va dire mazot. Qu'est-ce qu'il y a? Certains vont dire que le mazot, c'est pas seulement qu'il comprend rien du vivant des choses. C'est qu'en vérité, il y a un problème. Parce que si nous disons que ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est quoi? C'est que les prorotes des premiers-nés d'Ebné Israël n'ont pas été tués, alors que les prorotes des Mitzrim ont été tués. Alors dans ce cas-là, pourquoi les gens qui ne sont pas de Chor, pourquoi ils font le Seder? Qu'est-ce qui est Mazot? Ça correspond à quoi pour vous qui n'êtes pas, nous qui ne sommes pas de prorotes, ou qui ne sommes pas les premiers-nés? Nous, on n'a rien à fêter de particulier. Le mazot peut être entendu comme une question. C'est incohérent. Et parce qu'il y a une petite minorité de gens, les prorotes, qui ont été sauvés, ben alors, effectivement, que eux fassent une fête. Et pourquoi tout le clan d'Israël doit faire se mettre sur la tête, sans tout l'appartement, etc. Tout ça. Alors, pourquoi? Puisque ils n'étaient pas concernés. La plupart des gens n'étaient pas concernés. Puisque l'essentiel, les gens qui étaient concernés, enfin, les gens qui étaient concernés, c'est les provinces. Une minorité. Alors, en tout cas, même si on ne va pas jusque-là, Shemoy Verlichol, ça veut dire c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de ces choses. C'est-à-dire, si on interroge, même si c'est un adulte, bon, quelqu'un qui ne sait pas. Peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas. Et bon, ça c'est Shemoy Verlichol, il ne peut pas vraiment poser de questions parce qu'il n'est pas sûr de ce qu'il voit, il n'est pas sûr de son questionnement, donc il ne pose pas la question. On l'a aidé à poser la question, on va le faire poser les questions sur les choses sur lesquelles il n'y a aucun doute que ce n'est pas des choses qu'on fait d'ordinaire. Lorsque Paro a renvoyé les Israël, il est clairement écrit que Paro n'a pas laissé, il n'a pas guidé les Bnei Israël par le chemin le plus court qui aurait été, vous vous souvenez, le chemin de remonter le long de la côte en passant par Gaza, si vous voulez, parce qu'il aurait fallu à ce moment-là affronter les Plishtim, les Philistins, faire la guerre contre eux, et semble-t-il cette guerre-là était une guerre qui aurait effrayé les Bnei Israël. Hachem donc a fait faire un détour pour ne pas être confronté aux Philistins. Ça veut dire qu'Hachem nous a guidés tout au long, au moment de la sortie, puis ensuite, pendant 40 ans, il nous a complètement guidés. Donc, les Bnei Israël ont un rapport particulier avec Hachem qui joue le rôle de guide de Bnei Israël. C'est donc une relation tout à fait particulière. Ça veut dire que nous, on avait pas expliqué, je répète parce que je crois que c'est important de le rappeler parce que ben, les choses en place. On avait vu que on pouvait pas entendre vraiment que la sortie d'Égypte était la sortie du territoire égyptien, mais que il s'agit de sortir d'une situation, d'un état de Mitzrayim et entrer dans un autre état. Alors on pourrait dire que cet autre état, il s'appelle Midbar et c'est le Medaber. Dans Midbar, ça peut se lire aussi Medaber. Et Medaber, c'est le parlant. On va entrer dans le monde du parlant. Donc c'est pour cette raison que les gens disent, beaucoup disent que, enfin, Midbar, je dis aussi, que en Mitzrayim, c'est l'exil de la parole. Il n'y avait pas de parole possible. On ne pouvait pas parler exactement. Hachem ne parlait pas en Égypte au Bnei Israël. Il était éloigné d'Hachem, donc un exil complet de la parole jusqu'à ce que vienne la parole de Moshe, qui lui avait la difficulté personnelle à parler, mais qui s'avère quelqu'un qui ne peut pas parler à Paro, mais avec un intermédiaire, son frère Aaron, il va quand même communiquer avec Paro, mais sans lui parler directement. On a expliqué Mitzrayim comme Etzer Yam, parler de la mer, de l'eau. Et puis, en réalité, disons que on avait vu que selon la maturité de l'enfant, on lui dit les choses d'une manière ou d'une autre. On avait fait remarquer que lorsque le Rambam parle de parler à un enfant qui est un katan, qui est un petit, un mineur ou quelqu'un de limité dans sa compréhension des choses, le père, celui qui lui parle là, il est présenté comme celui qui est Melamed, le Lamdo. Il s'agit de lui enseigner, Limud. Alors que, quand il parle au Gadol, ou Modio, il lui fait connaître, il lui fait savoir, il lui donne une information. Intéressant de voir la différence, c'est-à-dire que dans le Limud, puisqu'il s'agit d'un Kata, on seulement on lui donne des informations, mais on va lui dire comment il doit les recevoir, qu'est-ce qu'il doit, comment il va les travailler. Alors que visiblement pour un gadol, on lui donne des informations et à lui de travailler, à lui d'en faire quelque chose de ces informations. C'est-à-dire que le gadol, évidemment, c'est pas simplement qu'il a la bar mitzvah, mais ça veut dire qu'il est suffisamment grand pour, à partir du moment où on lui donne les éléments, c'est à lui à construire tout ce qu'on peut construire avec ces éléments. Donc il va devoir utiliser son intelligence, son imagination. Il faut tout utiliser, sa personnalité, sa richesse intérieure, pour justement interpréter les éléments qui lui sont donnés. Donc, raconter la sortie d'Égypte à un gadol, c'est seulement lui donner des informations, mais ensuite, lui, il va avoir, évidemment, une sortie d'Égypte qu'il aura lui-même fabriquée, en fait. Sa sortie d'Égypte à lui, sortie d'Égypte que il va faire avec ce que son père lui a enseigné, son maître, ça lui a enseigné, bien c'est une sortie d'Égypte personnelle. Comment lui, il voit la sortie d'Égypte, avec ce qu'il est. Et donc c'est un travail intérieur qu'il va devoir faire pour essayer de comprendre ce que ça représente pour lui, avec ce qu'il est, lui, un gadol, quelqu'un qui a une intelligence, une imagination, et qui va pouvoir construire quelque chose. C'est très, c'est assez énorme ce que dit ici, c'est le Rambam dans cette, semble-t-il, dans cette différence entre enseigner où on doit prendre l'enfant par la main et aller non seulement lui donner les informations parce qu'il ne saura pas qu'en faire, il faut aussi lui expliquer comment le traiter, on va lui apprendre à l'air-même, on va lui apprendre à étudier. Ça, ça fait partie du travail qu'on doit faire pour un tatan. Quand il est gadol, alors c'est plus ça le travail. Voilà, c'est comme ça on doit voir. Le travail qu'il va devoir faire, c'est un travail qui va être un travail de se faire sienne la sortie d'Égypte. Vous voyez, donc, alors, quand vous pouvez imaginer que vous avez une table, vous avez des gens qui sont gadols, qui sont des enfants ou des gens qui des élèves, parce qu'il n'y a pas de différence entre les élèves et les enfants de ce point de vue-là. Les banim, ça veut dire aussi les enfants et ça veut dire aussi les élèves. Et c'est les filles comme les garçons, c'est pas du tout réservé aux uns plutôt qu'aux autres. Donc, il y a là, on va voir finalement des gens qui, chacun va être en train de vivre sa sortie d'Égypte, avec les mêmes éléments qui lui sont pour celui qui, donc, concrètement, qui donne le CDR. Après, le Gaon de Vilna, lui, il pense, le Gaon, que il n'y a qu'une seule personne qui donne le CDR. Il y a beaucoup d'endroits où tout le monde lit la Agada ensemble. Le Gaon, c'est pas comme ça que ça doit être fait, mais bon, chacun fait comme il a l'habitude, mais c'est important qu'on veut réfléchir. Donc, ça veut dire, on donne le matériau aux gadolim, aux gens qui sont gadol, aux gens qui sont chacham, on leur donne le matériau, et chacun va en faire quelque chose qui n'aura peut-être pas, qui sera certainement différent de ce que son voisin ou sa voisine va en faire. Donc, en d'autres termes, la résultante, c'est il n'y aura pas une seule sortie d'Égypte. Il y aura obligatoirement des sorties d'Égypte. Alors, chacun va devoir se considérer comme étant lui-même sorti d'Égypte. Ok? Mais on va pas, tout le monde va pas ressentir la même chose. Quand on lui dit tu dois te sentir comme si tu étais sorti d'Égypte, tout le monde va pas le ressentir de la même manière. Certains vont le ressentir. Et donc, comme cela,
Non. Donc ça veut dire que il y a tout un travail à faire, et on comprend très bien qu'un travail comme celui-là prenne toute une nuit, au moins toute une nuit. Et si, alors, il y a encore une chose qui est très importante, je l'ai déjà dit plusieurs fois, pas cette année, vous avez remarqué probablement que dans Mamishtana, il y a a priori une faute de grammaire. Là, c'est marqué Mamishtana Lailazé. Donc Laila, c'est féminin. Donc on devrait dire Mamishtana Laila Azot. Pourquoi on dit Laila Azé? Parce que la plupart, quasi-totalité des mitzvot positives de la Torah, elles sont à vivre de jour. Et essentiellement, la mitzvah du Sipo Yetziat Mitzrayim, c'est la mitzvah positive qu'on vit de nuit. Et on peut dire ici que cette nuit-là, en fait, c'est une nuit transformée en jour. Ah, mais si on dit ça, donc ça fait surprendre dans le niveau d'esprit, parce que cette histoire de transformer la nuit en jour, c'est bien connu. Vous savez probablement quand Lot a été fait prisonnier dans la fameuse guerre des quatre contre les cinq rois, il a été fait prisonnier, et bien entendu, un début de l'opération, c'était de faire en sorte qu'Abraham vienne libérer son neveu, son beau-frère, et en pensant que, bon, Abraham va venir et on va enfin pouvoir le tuer. On va pouvoir enfin en finir avec les valeurs d'Abraham. On n'en a rien à faire, les autres peuples n'en voulaient pas. Et donc, tant qu'il est là, il est en train de raconter toutes ces choses, il s'ennuie. Eh bien, on va faire en sorte qu'il ne nous nuise plus, on va le tuer. Donc, il voulait que Abraham vienne faire la guerre contre eux pour libérer Lot. Et alors, il y a tout un problème sur la façon dont Abraham Avinu a fait la guerre. Vous vous souvenez, Abraham Avinu n'a pas fait la guerre avec des armes. Il a jeté sur l'autre peuple, il leur a jeté de la poussière et de la paille. Évidemment, c'est tombé sur eux sous forme d'armes, mais lui, il ne s'est pas sali les mains en manipulant des armes. Est-ce que eux lui ont envoyé les armes qui sont arrivées sur lui, sont tombées sous forme de poussière et de... Donc lui, il n'a pas eu du tout à se salir les mains, parce que un des problèmes de la guerre, c'est que même si c'est pas vous qui avez provoqué la guerre, mais souvent vous êtes obligé d'utiliser, pour pouvoir répondre à l'ennemi, d'utiliser un peu les méthodes de l'ennemi, et une des graves conséquences, c'est que si l'ennemi élise des choses qu'on supporte pas, qui sont contraires à nos valeurs, on peut être amené à ne pas vivre selon ses propres valeurs pour pouvoir lutter contre l'ennemi. Donc là, Abraham n'est pas tombé dans le piège. Et alors, le problème, c'est que Abraham Avinu, il est arrivé, il fallait... C'était la nuit, donc on n'avait pas l'habitude de faire la guerre la nuit parce que les groupes électrogènes n'étaient pas disponibles. Enfin bref, il y avait des problèmes, et donc on faisait pas la guerre la nuit. Et Abraham Avinu a dit, mais si je ne fais pas la guerre pendant la nuit, alors l'autre va souffrir une nuit de plus, une nuit de trop. Et donc il a décidé de faire la guerre la nuit. Et donc ça veut dire qu'il a, de ce point de vue-là, transformé la nuit en jour. Il s'est battu dans la nuit pour sauver Lot, comme si c'était un jour. Là, il se passe une chose extraordinaire, c'est que Akadosh Baruch Hu va dire à Abraham Avinu que c'est lui, Akadosh Baruch Hu, qui va prendre modèle sur Abraham. Et Hachem va dire, toi, tu as transformé la nuit en jour pour sauver Lot, et éviter de souffrir, alors Ayecha, je jure, dit Hachem, je transformerai moi aussi la nuit en jour tes descendants. Et c'est ce qui s'est passé. La nuit en question, la nuit de la lutte
pour délivrer l'autre, c'était le 15 Nissan, et la nuit, le 15 Nissan, Akadosh Baruch Hu a transformé la nuit en jour. On y voyait comme en plein jour, au moment de la sortie d'Égypte, bien que cela se soit déroulé la nuit. Hatzot, c'est à minuit. Donc, on a ce paradoxe, si vous voulez, que quand on pense à la sortie d'Égypte, quand on veut parler de la sortie d'Égypte, on doit tenir compte de ce que l'on est dans une situation où la sortie d'Égypte, elle va de pair avec une transformation de la nuit en jour. En d'autres termes, la transformation de la nuit en jour, la nuit c'est le galout, et le jour c'est la Géoula. On a transformé une partie du galout, on l'a transformé en jour. On est sorti précipitamment, on est sorti finalement plus tôt qu'on aurait dû, mais ni très plus tôt. Alors, c'est ça la transformation de la nuit, c'est-à-dire du galout, en Géoula. Il y a une partie du galout qui est devenue Géoula. Qui est passé de l'autre côté en quelque sorte. Et ça, c'est dû à Abraham Aviv. Le Pessène de l'Hachem, il se pose comme si il avait appris la leçon d'Abraham Aviv. Donc c'est un mérite d'Abraham Aviv. Il est à l'œuvre ici quand les Bnei Israël bénéficient de ce miracle-là, de transformation de la nuit de la nuit. En jour, et c'est pour ça qu'on dit à Laïla Hazé, d'accord? Parce que cette nuit-là, elle n'est pas féminine, elle est pas, elle est masculine, on doit la transformer en un plein jour, en quelque sorte. Donc là, c'est une remarque sur cette nuit-là. Ensuite, le soir du Seder, effectivement, le personnage important, c'est la Matzah. Alors, on avait parlé déjà de cette notion du goût, mais je pense, le goût de la Matzah, par opposition au goût du pain, vous m'arrêtez, hein, si c'est pas vrai, si je n'ai pas parlé avec vous, mais... Donc il y a une mitzvah de ne pas manger de chametz. Il y a aussi une mitzvah de manger de la matzah, mais il y a d'abord une mitzvah de ne pas manger de chametz. Et là-dessus, bon, il y a la chose suivante. Quand on parle de vous manger des matzot, alors la graphie de matzot permet de lire le mot comme si c'était marqué mitzvot. Ushmartem est un matzot, ça peut se lire ushmartem est un mitzvot. C'est la même graphie, c'est les mêmes lettres. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du chametz par rapport au mitzvot. Vous vous souvenez, on avait dit que ce qui faisait le chametz, c'est le temps. Bon. Ce qui fait qu'on a affaire à du chametz plutôt que de la matzah, c'est qu'on a laissé du temps et est devenu un ingrédient de plein pied, en quelque sorte, dans la fabrication de ce qui va devenir du lechem, qui va devenir du pain, du chametz. Et donc, ce temps-là, qui est le temps de la fermentation, si vous voulez. Alors, ce n'est pas que toute fermentation est interdite. Je vous rappelle qu'il y a quand même Arba Kotsot. D'accord? A priori, c'est à voir un peu avec la fermentation. Donc, on ne peut pas dire que le soir de Pessah, on ne veut pas manger pas de fermenté. Manger de fermenté, c'est justement la fermentation qui donne
du Hametz, c'est-à-dire avec les Hametzetam minim, etc., les cinq espèces de céréales avec lesquelles on fait de la matzah, du pain, etc. C'est seulement une toute petite partie, si vous voulez, des produits de la terre. On n'a pas le droit de manger sous forme fermentée. Reste, on n'a rien dit, on avait le droit le vin est l'exemple par excellence. Et pourtant, on va dire que de même qu'il ne faut pas laisser les matzot devenir chametz, pas non plus laisser les mitzvot devenir chametz. L'expression est mitzvah abal yadra, mitzvah qui vient à ta portée, al tachmitzena. Vous entendez? Al tachmitzena, c'est le mot, vous entendez la racine chametz. Il ne faut pas la laisser devenir chametz. En d'autres termes, dans une mitzvah, quelle que soit d'ailleurs, on a l'obligation de faire cette mitzvah de telle sorte qu'elle n'ait pas le temps de devenir chametz. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah qui devient chametz? De la même manière que la matza, c'est un pain, et le pain, c'est du pain, évidemment. À un certain moment, c'est interdit, mais en général, il n'y a pas non plus une chametz dans le Beit HaMikdash. Sauf dans le Korban Toda, où, sauf à Tabour, on amenait du pain chametz. C'est les deux seules situations dans lesquelles on amenait du chametz. Le reste, c'était toujours matza. C'est-à-dire, tout ce qu'on a fait, c'était toujours avec les règles de fabrication qui respectent le fait de ne pas laisser le temps prendre de l'importance. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah qui est devenue chametz? C'est toujours une mitzvah. Mais il y a une dimension dans l'accomplissement des mitzvot, dimension qui est veiller à ce que ça ne devienne pas chametz, ça s'appelle zrizut. Ça s'appelle zèle, ou bien les choses avec élan, avec entrain. Donc, voilà, il y a une dimension dans l'accomplissement de la mitzvah qui est perdue si on ne fait pas la mitzvah dès que possible. La mitzvah est encore une mitzvah. En général, on a un certain laps de temps pour faire la mitzvah. Quand on est dans l'intérieur de ce laps de temps, la mitzvah est cachère, elle est faite dans les règles de l'art. Mais on peut la faire mieux. Et ce mieux-là, on le perd si on laisse le temps jouer. Alors, chacun va ressentir à sa manière. L'effet du temps qu'on laisse passer avant de faire la mitzvah que j'aurais pu faire, je pourrais la faire maintenant, mais non, mais je vais laisser passer du temps, et finalement je ne l'aurais fait que deux heures plus tard. Si j'avais les trois heures pour le faire, c'est parfait, je suis dans les temps. J'ai perdu quelque chose d'important. Alors, à la limite, je pourrais aller regarder. Est-ce que je réfléchis de la même manière sur la matza, que par opposition au pain? C'est pas simplement qu'on n'a pas laissé le temps, mais il y a donc une situation dans laquelle la zrizut, qui pour les mitzvot c'est facultatif, oui, c'est en plus qu'on aurait éventuellement perdu. Mais dans la matzah, c'est quelque chose qui est fondamental. Ça m'a invalidé la mitzvah d'Achilat Matzah si j'ai laissé le temps prendre son temps et la chose devenir chametz. Vous voyez, donc, c'est comme si la matzah, c'était la mitzvah sur laquelle on voit l'effet du temps passé, l'effet de ne pas prendre les choses
avec suffisamment d'élan, avec suffisamment d'entrain, etc., pour de zèle, finalement. Là, dans ce cas-là, ça marche plus. On sort plus. Avec ça, quelque part, puisque la matzah représente justement quelque part la sortie d'Égypte, mais une sortie d'Égypte, puisque elle est représentée par la matzah, une sortie d'Égypte dans laquelle on met l'accent sur le fait que les Israël ont dû sortir en catastrophe. Ils n'ont pas eu le temps de prendre, ils n'ont pas pu prendre le temps pour sortir. C'est-à-dire que c'est assez impressionnant qu'ils regardent un peu plus près, parce que, si vous voulez, la massa qui est, comme on a dit au début du CDR, c'est un pain de misère, le pain d'esclavage, mais ça va représenter, comme nous disons, matzah shanu ochlim al shumma. Pourquoi est-ce qu'on mange la matzah? On mange la matzah parce que ça doit rappeler la hâte dans laquelle les Bnei Israël sont sortis. En d'autres termes, ça veut dire que lorsque l'heure de la liberté, 14 Nissan à midi, est arrivée, les Bnei Israël, ils ne pouvaient pas maintenant s'occuper de conquérir leur liberté. Ils n'avaient même pas le droit de sortir de leur maison. Ils étaient là à y attendre l'appel de la liberté. Hachem donne le signal. Mais, en fait, ce qu'on voulait d'eux, ce qui les a qualifiés en réalité, c'est pas d'avoir lutté pour la liberté, c'est d'avoir été entièrement dévoué à Torah. Le Korban Pessah, c'est l'expression de ce point de vue-là aussi de cet être dévoué complètement à Hachem. Parce que dans Pessah Mitzrayim, ça c'est pas exactement comme le Pessah que nous faisons nous, mais ils ont dû manger le Korban Pessah avec ce qui était pour eux le pain de l'esclavage, les herbes amères. Donc c'était une façon de montrer à l'évidence que ils n'ont pas participé vraiment eux-mêmes à la libération. Ils ont consommé même à ce moment-là, au moment de sortir d'Égypte, et qu'ils consomment comme pain d'esclavage. Jusqu'au moment où Hachem va donner l'ordre de leur donner, on va leur donner la liberté qu'ils avaient perdue, donc. Mais à ce moment-là, ils sont chassés par les Égyptiens, par les oppresseurs, ils les chassent, ils les pressent de sortir. Au point qu'ils n'ont même pas le temps d'emporter une pâte qui aurait eu le temps de fermenter, de devenir chametz. Donc la matzah, elle devient le signe, le témoignage de ce caractère complètement dû à Hachem de la sortie d'Égypte. Bon, c'est bien clair, ils n'y sont pour rien parce que ils ne pouvaient rien faire jusqu'à un certain moment, et quand ils pour leur donne le départ, ils sont obligés de partir. Il n'y a pas de temps de préparation. Ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas participer vraiment dans la Bastille, il n'y avait pas la possibilité de participer, de prendre quelque chose, de se libérer, en fait. Ça n'était pas possible. Ça n'a pas été donné. Et la matzah, elle est appelée dans le soir, elle est appelée, c'est le Nahama de Mehemnuta. C'est le pain de la confiance en Hachem. L'idée, c'est comme ça. Quand vous avez une pâte qui est livrée au temps, ça veut dire la pâte, elle continue de travailler de son côté, indépendamment de l'homme. Elle travaille. Elle continue son travail. La matzah, elle n'a aucun degré de liberté, en fait. Elle ne sera que ce que l'homme va en faire quand elle sera déjà matzah. Mais
c'est déjà Hametz, la pâte elle est déjà Hametz,
elle continue de travailler. Faites le pain, cette nourriture fondamentale. Après ça, c'est quoi? On se nourrit de la confiance en Hachem. Pendant toute une période entière, sur cette période de 7 jours. Et puis il y a ce qu'on pourrait appeler le super Hametz, qui est le levain. Bon, le levain qu'on met dans la pâte pour qu'elle devienne Hametz, plus rapidement, donc pas simplement on va laisser évoluer, mais on va accélérer les choses. Le levain, il est appelé Etzerara. Et donc, ce qui va fabriquer, susciter plus rapidement donc la fermentation. Donc c'est, quand on dit que c'est le Yetzirara, si on entend bien que va être fondamental ce Yetzirara. Quand les Chachamim ont prié pour que Hachem annule complètement le Yetzirara dans le monde, il n'y avait plus une boule qui fondait à l'œuf. D'ailleurs, le monde s'arrête de tourner. C'est fini. Il n'y a pas de... il a une fonction. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'on doit servir Hachem Ishnei Yitzhak avec les deux Yitzhak, le Yitzhak Tov et le Yitzhak Ra. Il ne s'agit pas du tout d'annihiler, de détruire complètement le Yitzhak Ra. On en a besoin. Il faut le mettre au service d'Hachem. En d'autres termes, vous voulez, il ne s'agit pas d'annuler le temps, mais il faut que ce temps soit au service d'Hachem. Quand vous travaillez la Mansa, vous pouvez aussi en trouver. On n'a pas laissé la bride sur le cou au temps. Le temps travaille, il va servir Hachem, si vous voulez. Donc, voilà, tout ce qu'on fait, il faudra le faire en utilisant le temps. Il faut ne pas perdre le temps, ne pas perdre son temps. Le temps est quelque chose de précieux. On dit sur Abraham Avinu, on le dit souvent aussi, que quand on dit Abraham Avinu qu'il était Baba Yamim, vous vous souvenez, Baba Yamim, il est venu avec ses jours. Ça veut dire que Abraham Avinu, il est venu. Et il avait fait de chacun des jours de sa vie, il en avait fait quelque chose. Nous, ça nous arrive de dire que, bon, aujourd'hui, j'ai rien fait. Un jour. Des fois, je l'ai fait pendant cette semaine, rien. Rien fait. Ça, c'est gravissime. Rien faire. Il s'agit d'en faire quelque chose. Il faut considérer c'est la donnée, il faut en faire quelque chose. Donc, de la même manière que on donne les informations et le gadol, il faut qu'il construise la sortie d'Égypte, à lui travailler sa sortie d'Égypte, pour que ce soit la sienne, que ce soit lui qui sorte d'Égypte. Chayav Adam Lirot Atzmo, lui est son essence, lui-même est sorti d'Égypte. Alors, il y a tout un travail, parce que, en vérité, ce ne sont pas les individus qui sont sortis d'Égypte. C'est le clan Israël qui est sorti d'Égypte. Il n'était pas encore clan Israël. Mais c'est l'ensemble qui sort d'Égypte. Et si Israël, c'est pas un phénomène qui frappait les individus, c'est en tant que, ensemble, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont été fabriqués. Il y a une unité entre les gens qui sortent d'Égypte. Alors, quelle est cette unité? Bon, au premier chef, on peut dire, leur unité, c'est d'être ceux qui acceptent de suivre Hachem, comme on dit, Beretz Lozroua, dans cette terre non ensemencée, un désert. Désert. C'est-à-dire, le désert, c'est
une situation dans laquelle il n'y a aucune structure pour nous aider, si vous voulez. Quand vous entrez dans un pays, vous regardez effectivement où se sont construites les villes, etc. Vous allez regarder, bon, c'était dans un, c'est parce qu'il y avait ici une rivière qui laissait, c'était un bon endroit, etc. Il n'y a rien de tout ça dans le désert. Par exemple, dans le désert, la structure du plan Israël, elle a été donnée artificiellement. On a pris quoi? On a pris la structure des fils de Jacob autour du lit de mort de Jacob. Donc, les 12 fils, comme ils étaient, c'est comme ça que les fils d'Israël allaient, ils allaient camper de cette manière-là, autour du Mishkan. Ensuite, quand ils allaient, bon, ils allaient marcher, il y a un ordre, une structure. Ils n'étaient pas aidés du tout par le, par la géographie physique. Et là où ils allaient, ils étaient guidés par un chien qui leur disait par où il fallait passer, mais sans aucun point d'appui. Alors, c'est pas qu'ils ne sont pas allés d'une oasis à l'autre ou des choses comme ça. Il y a des endroits où il y avait une oasis, mais c'est pas systématique. Ils sont allés là où Hachem a dit qu'ils devaient aller. Là où Hachem les a guidés. Donc, il fallait inventer une structure. Parce qu'il n'y avait rien qui nous y aidait. Par contre, quand les Israéliens vont entrer en Eretz Israël, alors on va tenir compte du fait que dans cette tribu-là, elle veut être proche de la mer. Celle-là, elle veut être côté montagne. Celle-là, elle veut être comme ci et comme ça. On va tenir compte de la personnalité de chacune des tribus et de la personnalité de chacune, de chacun des espaces qu'on va leur attribuer. On va que ça colle. On va donner telle et telle partie d'Eretz Israël à telle et telle tribu parce que c'est comme ça qu'elle va pouvoir s'épanouir au mieux. Et ça, on est aidé en quelque sorte par la géographie physique, si on peut parler comme ça, alors qu'on n'était pas du tout au désert. Donc il fallait inventer complètement le clan Israël, sa structure, elle ne doit rien du tout. À ce moment-là, elle ne doit rien du tout à autre chose que la volonté d'Hachem. C'est Hachem qui dit, c'est comme ça qu'on campe, c'est comme c'est maintenant qu'on se déplace, c'est pas plus tard, c'est pas plus tôt, là, on y va maintenant. Parce que Hachem a décidé qu'il s'était là. Alors, on a vu ce Ramban sur les Nissim. Bon, que c'était qu'effectivement ces Nissim étaient cette façon pour Hachem de se dévoiler à ce moment-là. Alors, il nous reste quelques minutes, on avait un petit problème, et on a commencé par, au début on en a parlé un peu. Il y a cette mitzvah de se souvenir du jour où on est sorti d'Égypte. Mais il y a aussi une mitzvah de se souvenir du mois en question. Du mois qui était le mois de Aviv. Alors, il y a dans le fait que le mois de Nissan, c'est le mois du printemps et que c'est en même temps le mois de la libération, il y a effectivement une idée très importante, c'est que il fallait lutter contre l'idée de dire que on est sorti parce que c'était le printemps, parce que c'était le renouveau, comme si Hachem avait eu besoin, en quelque sorte, de s'appuyer sur le renouveau de la nature pour permettre aux Israélites de sortir. Quelque part, comme si c'était la nature qui permettait aux Israélites d'accéder à la liberté. Or, la tentation est grande. C'est justement au moment dans ce cadre, justement, de ce cadre naturel du renouveau, que le renouveau de Klal Israël a lieu. Ce nouveau, ce Klal Israël se naît. À ce moment-là, on pourrait dire, bon, ben, c'est normal, c'est, on a pris appui là-dessus. Et donc, il fallait lutter pour bien voir que, c'est pour ça les trois fameuses fêtes de pèlerinage, qui sont liées à des, avec des étapes agricoles, si on veut, de développement de culture, enfin de la récolte, enfin de, eh bien, il fallait bien se démarquer, bien voir que ce n'est pas parce que c'est comme ça dans la nature que ça s'est déroulé de cette manière-là. Pas du tout pour ça. Mais, la période Borco a montré que il fallait pas, a priori, spécialement aller justement contre. Il faut comprendre, c'est plus subtil. Il faut comprendre que même si ça va dans le même sens, c'est pas ça la raison. Bon, ça veut dire, la tentation est de dire, c'est ça la raison, à laquelle on accède à la liberté, au renouveau. Si on avait le renouveau en hiver, on ne pourrait pas s'appuyer sur la nature. Mais là, on pourrait, la tentation est là, et donc c'est une tentation idolâtre de donner une valeur à la nature autre que d'être la volonté de la chaîne, et que par conséquent, elle, c'est pas, c'était la volonté de la chaîne que le peuple d'Israël sorte à ce moment-là. Voilà, il a fait coïncider les choses pour justement nous montrer que vous trompez pas, c'est pas parce que, il se trouve que c'est en même temps. Mais c'est rien, c'est pas la cause. Mais c'est pas contraire, c'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire de faire les choses en dépit du bon sens, si vous voulez. C'est pas nécessaire. Hachem n'a pas besoin de ça pour, c'est comme si Hachem n'était pas assez fort, il voulait, pour être reconnu, même dans un milieu, dans un environnement où on pourrait imaginer, donner un autre sens, donner une autre cause, si vous voulez, à ce qui se passe. Non, jamais. Notre émouna, c'est que c'est Hachem qui décide les choses, et même quand on pourrait penser autrement. C'est ça qui est très important. Parce que quand on ne peut pas penser autrement, mais si vous voulez, si vous voulez, si on ne pouvait pas faire autrement que de faire la volonté d'Hachem, on serait des robots. Si Hachem avait voulu des robots, il aurait fabriqué des robots. Il veut des gens qui sont capables de dire non à Hachem, mais qui prennent sur eux, dire oui. Se comprennent qu'il faut dire oui. Et qui pourraient, on aurait peut-être le culot, ou l'impudence, ou ce que vous voulez, dire non à Hachem. Il y a eu des gens qui ont dit non. Il y a 4/5 du peuple, et quand Hachem leur a proposé de sortir, ils ont dit non. Il n'a pas de mal à le comprendre. Hachem lui-même, il dit, Zakartila chesed neuraïr, je me souviens en ta faveur, du chesed que tu as fait. Comme si le ministre avait fait un chesed à Hachem. L'echtech achraï bamin barberes lozroa. Vous m'avez suivi dans un complètement désertique, absolument pas du tout ensemencé. C'était pas ensemencé, ça veut dire qu'il n'y avait rien à attendre. Tu vas être là, demain il va se passer quelque chose. Demain ça va aller mieux. Alors le lendemain va chanter. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Et en plus, c'est pas, a priori, c'est pas un endroit où on va pouvoir ensemencer. Et d'autre part, on va pas non plus y rester. Et on va se promener là. Bon, au départ, c'était seulement quelques jours. Après, les Israéliens ont, ayant fait des années. Mais, ce sont des expériences, si vous voulez, où on voit très bien que c'était uniquement la volonté de la chaîne. Là, c'est un peu plus facile quand on peut pas se tromper. Personne ne peut dire que le plan Israël, dans le désert, dans les 40 ans du désert, le plan Israël, il s'est débrouillé tout seul. Alors, ça veut dire autre chose pareil. Ceux qui ne veulent pas reconnaître qu'Hachem, ils sont obligés de dire qu'on n'était pas dans le désert. Parce que si on était un peuple dans le désert alors qu'on n'est pas là, un peuple de plein du désert, bon, on était beaucoup trop nombreux, on n'était pas du tout équipés, ça ne correspondait pas à notre civilisation, etc. Donc, on ne pouvait pas s'en sortir. Donc, ou bien c'est un miracle, donc ce premier pas. C'est une gouvernance tout à fait particulière qu'Hachem a donnée au clan Israël dans, à sa naissance. Parce que le clan Israël, il était à ce moment-là un katan. Et le katan, ça reste le lamdo, comme dit Ramban. Le katan, il faut lui enseigner jusqu'au bout. Pas seulement lui donner les éléments et comprendre tout seul. Non, il faut tout lui mâcher le travail. Chaque fois qu'on n'aura pas suffisamment bien mâché le travail, ils se sont cassés la figure. Et il fallait leur mâcher le travail, vraiment. C'est ce qu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu au début de Mishpatim. Ne t'imagine pas que tu pourras simplement leur donner les informations jusqu'à ce qu'ils l'aient bien en bouche. Ils peuvent réciter le Chopin là qu'ils le connaissent. Ils vont répéter. Non, non, non. Surtout ne t'imagine pas que tu pourrais te contenter de cela. Il faut que tu leur expliques dans le détail exactement toutes les choses. Il faut, comme la table mise. C'est pas pour rien, c'est ça le Chopin là. Ouais. Il faut une table, ils n'ont qu'à s'asseoir et manger. Quand tu connais si, faut peut-être le mettre la nourriture dans la cuillère, parce que ça non plus ils ne pourront pas le faire. Vous voyez? Donc c'est ça qui a été dit à Moshe Rabbeinu. Quand on lit le texte de Mishpatim, on se demande, mais qu'est-ce que c'est? Ce qu'il pensait, pourquoi il faut mettre en garde Moshe Rabbeinu? Tu ne t'imagines pas qu'on peut te contenter d'eux. Parce que, vous pensez qu'ils sont, c'est des adultes. Non, ils sont genre, le peuple est un peuple. Ils sont encore tout petits. Ils sont encore tout petits. Chesed ne pourraïr. D'accord. La jeunesse. Dans la jeunesse du clan Israël, les jeunes, ils ont suivi. Ils ont osé suivre Hachem. Une partie d'entre eux. Toute petite partie d'entre eux. 20% d'entre eux. Donc c'était ça de sortir. C'était la proposition que Hachem leur a faite. Voilà, je vous sors de l'Égypte. Et donc, c'est pour entrer dans un autre monde. Voilà. Alors, il reste à vous souhaiter. Pessah, Kacher, sa mère, vous allez probablement, nous d'ailleurs, vivre un Pessah extraordinaire. D'accord? C'est-à-dire que la plupart d'entre nous n'ont, en tout cas, jamais vécu, parce que même ceux qui l'ont vécu, les jeunes couples, ils sont devenus des vieux couples, ils ont complètement oublié, puis ils ne sont pas du tout dans la situation où ils étaient. Puis il y a des gens qui vont devoir faire ça tout seul. Et ça aussi, c'est marqué dans la Gemara. J'ai écrit dans la lettre, là, comme vous n'avez pas le mot reçu. Dans la Gemara, on dit, si il faut enseigner à son enfant, mais si tu n'as pas d'enfant, ben tu parleras à ta femme, et si tu n'as pas de femme, eh bien tu parleras toute seule, tu parleras à toi-même, tu mettras deux casquettes, une casquette quand tu poses la question, tu tournes à toute vitesse, tu vas de l'autre côté de la table, et tu reçois la réponse, tu te donneras la réponse, tu reviens, ça fait à la fois une gymnastique, et il faut rien négliger, c'est pas fait. C'est ça qui sera très important. Il ne faut pas se fatiguer, surtout. Mais il ne faut pas négliger. Il ne faut pas se dire, ouais, de toute manière, on n'est plus deux, on est tout seul, ou tout seul, bon, on va utiliser ça. Non, pas du tout. Il faut vraiment s'asseoir comme si vous étiez, comme vous l'auriez vous fait, comme vous auriez voulu le faire ou être, etc. Faites un vrai sévère, obligé de durer toute la nuit, hein, c'est temps de dormir aussi un peu, mais surtout, entendu, je l'ai dit en Tzadour, j'ai pas entendu le Ravoulin, parce que j'ai pas eu l'occasion d'entendre encore, mais pratiquement tous les rabbins que j'ai entendus dans le monde entier, tout le monde dit qu'il faut faire un minima, faire seulement le strict minimum. Chacun a son strict minimum, mais encore, c'est bien sûr qu'il y a des choses absolument fondamentales, il y a des plats, il ne faut pas faire Pessah, si on n'a pas tel ou tel plat, je comprends très bien, non plus. D'accord, donc il y a, mais il faut pas, il faut être sérieux, il ne faut pas se, pas se faire trop de travail, pas plus que c'est nécessaire, mais par contre, essayer d'être, c'est nouveau, ça, on n'a jamais fait ça. Là, en Israël, on connaît pas ça. On a fait, il y a eu des Pessahs, par exemple, les Pessahs dans la guerre, sur les croisades, sur le pogrom, etc., toutes sortes de choses. Mais là, il n'y a pas d'ennemis visibles, etc. Nous sommes obligés de nous confiner, hein, obligés. Il y a un petit truc qui nous menace, quand c'est... Mais on aurait dit que beaucoup doivent terriblement rigoler. Cette arrogance des humains qui s'imaginent qu'ils ont tout maîtrisé, etc. On leur envoie un petit truc là pour qu'ils se rappellent. Tant que tu connais ça, tu ne connais pas. Fichu, je ne sais pas comment vous le voyez, mais moi, à part avec la phrase nouvelle, d'abord, on a entendu de très mauvaises et de moins mauvaises, mais encore très mauvaises quand même. Mais il y a aussi, bon, j'aime des gens qui guérissent, et bon, qui vont être très fatigués, qui, ben, etc., mais bon. Mais il dit même que la moitié, de même plus que la moitié de l'humanité est confinée. La moitié de l'humanité confinée. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est impensable. La moitié de l'humanité, l'arrêt, confinée. On ne peut pas sortir là. Vous avez, actuellement, vous avez des Chinois, vous avez toute l'Inde qui est au, si, j'ai vu des images en Inde, là, si vous osez vous promener dans la rue, là, vous êtes bastonné. Et les flics qui se baladent avec des bâtons, ils tapent sur les gens à bras raccourcis. C'est un quelques sadiques là qui leur prennent leur plaisir. Et vraiment, ils bastonnent les gens qui sont dans la rue, donc ils n'auraient pas, ils n'ont pas le droit de l'être. Et c'est pas seulement des amendes, c'est des coups. Vraiment, et des coups, des gros bâtons. Voilà. Ben, c'est moi que je vais raconter, hein, c'est ah, il y a toutes sortes de gens, des gens qui n'ont pas pu se marier, des gens qui viennent de se marier, et comme cadeau de mariage, ils sont confinés, ils se connaissent même pas tellement, et puis, hein, ils sont confinés 24/24, 7/7, quelques mois, ouais, ils sont confinés. C'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est pas rien. Bon, après, il restera quand même à savoir si on est capable de tirer des leçons. C'est encore un peu tôt, mais c'est sûr qu'en tout cas, nous, Israël, on a sûrement l'obligation d'en tirer des leçons. Même si c'est pas obligatoirement tel que les autres vont dire, mais peut-être c'est encore un peu tôt. Avant de s'avancer, surtout pas faire de prévision, n'importe quoi. Mais leçon, oui. Sûrement, si. Normalement, la façon la plus immédiate de tirer une leçon, c'est de regarder qu'est-ce qu'on m'a enlevé. Et si on m'a enlevé la chose, c'est que probablement je ne la gérais pas comme il fallait. Quand on nous a enlevé le Beit HaMikdash, c'est parce qu'on ne gérait pas le Beit HaMikdash comme il fallait. Mais c'est pas que dans le Beit HaMikdash, à ce moment-là, il n'a jamais manqué de korban. C'est pas l'intérieur du Beit HaMikdash qui était mal géré. C'est l'extérieur. Ce que les Neviim, les prophètes ont toujours dit, c'est que Hachem dit, moi j'en ai rien à faire du bon fonctionnement de l'intérieur, Korbanot que vous amenez, etc., alors qu'à l'extérieur, vous comportez comme des crapules. C'est une insulte pour moi. Parce que c'est comme si, voilà, j'ai payé ma cotisation, maintenant, pour les chrétiens, ils avaient tenté pour ça, bon, j'ai l'indulgence. C'est énorme, absolument énorme, gigantesque. Et Voilà, c'est... Donc si on regarde ce qu'on nous a appris, chacun doit remarquer qu'est-ce qu'on lui a appris vraiment. Bon, non, on va sortir, mais c'est probablement pas du tout... Ça n'a pas du tout le même effet chacun d'entre nous. Celui-ci, c'est plus ennuyeux, moins ennuyeux, etc. Et puis, voilà. Et puis, je pense que ça sera peut-être pas un confinement qui va durer aussi longtemps pour les uns que pour les autres. J'ai bien compris, nous, les vieux, on est confinés jusqu'à plus tard. Peut-être les jeunes, vous allez pouvoir éventuellement sortir plus tôt que nous, mais les vieux, on est visiblement confinés pour plus longtemps. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Comme ils savent pas, mais bon, donc, on verra. En tout cas, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est Pessah. Et il faut réussir Pessah. Faites de la joie, même si c'est des fois difficile, mais la Torah, elle nous demande des fois des choses très difficiles. On doit être en joie, même si, au fond, on se dit, mais est-ce que vraiment, je suis capable d'être en joie maintenant, dans cette circonstance? Tu aurais dit un peu, tu dois penser. Alors, je ne sais pas ce que veut dire justement. C'est forcer d'être en joie, mais bon, maintenant ça existe. Voilà, je vais arrêter. Et on se retrouve l'Imir Tsahachem pour des shiurim plus standards. Après Pessah, mais je ne sais pas exactement quand. Mais bon, on fera circuler un message. Ça sera peut-être pas le premier, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, dimanche. Peut-être pas le premier dimanche après Pessah. Peut-être qu'il y aura des choses à faire. Tu me fais ça, c'est vraiment fini. Un jeudi soir, ouais, peut-être on n'aura pas le temps de tout terminer, ou bien on verra. Voilà. Pessah, Kacher, sa mère.
Merci beaucoup.
Mais alors, vous pouvez bien donner des nouvelles. Vous pouvez toujours envoyer sur WhatsApp ou donner des nouvelles, donner de bonnes nouvelles.
Amen. Amen. Rav, j'ai une question.
Oui.
Quand vous dites qu'il faut être dans la joie, mais alors, vous dites dans la joie pendant Pessah, mais c'est pas... Je veux dire, on culpabilise pas d'être dans la joie pendant qu'il y a des gens finalement qui sont malades et qui peuvent pas le faire comme nous. Parce que d'un côté on peut ressentir la joie, mais d'un autre côté c'est très c'est très contradictoire.
C'est ça. Ce à quoi il faut faire attention, c'est plutôt être joyeux parce que c'est la fête, on le doit. On n'a pas le choix. Là, maintenant, faire des choses, se permettre des choses qui sont pas obligatoires et qui moi, si on les dérange, on ne va pas le faire. On doit être joyeux parce que la Torah nous prescrit Yom Tov, c'est un jour de Simcha. Donc, il y a une mitzvah de Simcha. La Simcha avec la Torah, ça veut dire faire la mitzvah. Puis voilà, ça n'empêche pas de penser qu'on voudrait bien que les autres puissent aussi bénéficier de cette simcha, dès que ce sera possible, on essaiera de faire participer à la simcha, qu'on va participer à l'heure de smachot, etc. Mais non, il ne faut pas avoir mauvaise conscience parce que c'est même pas un choix. On n'a pas le choix. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix. Pour pouvoir se réjouir et ne pas avoir mauvaise conscience parce que c'est prescrit, voilà. Ouais, si c'était optionnel, on peut dire, moi je ne fais pas, mais là, j'ai pas le choix. Alors, la Torah ici nous enlève ce problème. On doit le faire, ça fait partie de la mitzvah de, comme il faut manger de la massa, il faut manger de la massa de simcha, et pas en pleurant. Même si, il y a aussi pareil. Mais, pendant Yom Tov, on doit être de Simcha. Mais aussi, probablement, après, bon, vous serez comme maintenant. Maintenant,
personne n'exulte.
Non, non, c'est rien qu'il faut savoir et se dire prendre de l'état du monde, de l'état de voisin, de proche, de travail,
Je me suis posé la question rare parce que par rapport à notre fête, c'est par exemple quand Noé il était dans l'arche avec et qu'il y avait le déluge autour. Apparemment, effectivement, il devait pas. Il y avait des signes, en tout cas, sur lesquels il devait pas en fait faire des choses parce que justement.
Certains disent que dans des contextes comme aujourd'hui, personne n'a dit officiellement qu'on ne devait pas, mais si vous pensez à ça, mais peut-être à laquelle on peut réfléchir et éventuellement faire craindre.
Ça n'a pas été dit, mais parce que ça ressemble quand même à une destruction, quand même enfin, il y a beaucoup de gens qui sont touchés, donc ça ressemble quand même à une forme de.
Vous avez raison. Ça veut dire là, c'est laissé à l'appréciation de chacun. Mais bon, si vous, comme on dit, celui qui reçoit la lettre, il salue à la lettre.
Ah, d'accord.